Est-ce qu'on nous entend?
C'est bon, normalement, on vous voit.
On nous voit? Dites-nous, ouais. on vous voit.
Bonjour.
Je suis en train de bouger le chat à la main. Hello. Bonjour tout le monde.
Coucou. Ah. On nous voit. Attendez, je me recoiffe. Très bien.
Ah là là. Bonjour
va,
tout le monde.
Bonjour.
Bonjour le chat.
Bonjour.
Salut. Alors, il faut que vous me dites si le son est bon. Disiez, pardon, si le son est bon ou pas. Si c'est assez équilibré, parce que moi je vois que je suis peut-être un peu fort par rapport aux autres.
Dans le
comme
chat, est-ce
hasard.
Que vous m'entendez bien? C'est ce qui compte le plus. Si moi on m'entend,
on vous entend et on vous voit. Vous êtes bel et beau. Ouais.
Ah ouais, merci.
Super.
Pomme, tu satures.
Oh étonnant.
Mais non, mais pour comment ça se
fait?
Ah
merde, j'ai une voix de
et
robot.
Et Julien, tu es dans ton donjon.
Ah oui, attends, je sais.
T'as laissé des effets.
J'avais activé deux micros pour que vous soyez en stéréo. Normalement, l'effet a disparu.
Comment ça se fait que je sature?
Moi, tu satures pas dans mes oreilles.
Non, j'ai pas l'impression, c'est bizarre.
C'est que dans les oreilles
non,
de Karen que je sature.
Ça grésille quand tu parles, en fait.
Ah, fais
chier. Ok, bon, on y va. Oh, un chat passe.
Ah, mais ça, c'est...
J'ai la moustache.
Alors, bonjour le chat. Bonjour. Alors, je vais faire vite fait de ceux que je vois. Clégot, JL Premier, Shinobu 242, U, Grand Poil ici présent, Urd ici présent, Minka, Karen, Judge D, Kevin Bourbon 1, Medulazi, Cécile 2195. Mais il y a trop de monde. Nono Darko. Et alors, aujourd'hui, on va parler de la série The Stand, qui est sortie en 2020/2021. Et pour ce faire, on n'a pas pris d'invité, on a réuni toute l'équipe. Donc vous allez dire chacun votre tour bonjour. Alors, en haut à gauche, en plus ça marche cette fois-ci avec ma caméra, il y a Grand Poil. C'est les Grand Poil.
Bonsoir.
Ça va?
Ça va, très bien, content.
Là, il y a Émilie. C'est trop cool, j'ai l'impression d'être une majorette. Là, il y a Emeric.
Coucou. Bonjour.
Là, il y a Pomme.
Bah, du coup, j'ose pas parler. Ça va, je sature moins. Bonjour.
C'est bon, oui,
tu ne satures pas.
Ça grésille
juste un peu.
Et ah, ici, il y a Urd.
Coucou.
Bon. Alors, déjà, est-ce que vous avez tous bien fait vos devoirs? Est-ce que vous avez bien tous regardé la série?
Ah, merde.
Oui.
Ah, oui, bah oui, hein, grâce à l'abonnement Starzplay que le label m'a payé.
On n'est pas encore sponsor, mais on l'a regardé
suis...
en France.
Moi, je suis à jour de Riverdale, tout va bien, je suis prête à en parler.
ils ont même pas de compte Twitter encore, Starzplay. Je crois, on peut
non,
même pas
en France, non. Ouais. Ils ont un compte Instagram, je crois.
Ok.
Moi, je tiens à dire bonjour à ma famille qui est en force en train de nous écouter. Salut!
Bonjour la famille de Pomme, si vous avez des anecdotes, c'est maintenant. Hein.
Ouais, ah, lâchez oui. dans le chat.
Attendez, on peut peut-être essayer de les vendre, les anecdotes.
Un
donner des
anecdotes.
Sous.
oui, c'est Urd. Bon. C'est Cécile 2195. Alors, aujourd'hui, on ne va pas parler du roman. On va pas parler de l'adaptation des années 90. On a deux épisodes de 4 heures qui s'en chargent très bien. C'est le 13 et le 14, si vous le cherchez dans le flux RSS du roi. Mais on va parler de la série qui est sortie en 2020 qui est sur CBS Access aux États-Unis, chez Star Plays, chez nous. Alors, je vous fais la petite fiche technique et après on débattra très rapidement sans spoiler et après avec spoiler. Ça vous va?
Et on préviendra avant de faire les spoilers. Allez. Ah, il y a mon papa dans le chat. Coucou. Du coup, il doit y avoir ma maman à côté. Coucou.
Bonjour, papa.
On pourrait s'être à l'école des fans.
C'est énorme.
Et alors
il
est dans le chat.
Il
est
ton papa dans le chat.
T'as jamais cette fenêtre. Alors, la fiche technique. C'est un scénario qui a été adapté par Josh Boone, qui a réalisé et produit Nos étoiles contraires et les New Mutants. Je n'ai pas vu.
Alors, Nos étoiles contraires, c'est vraiment super sympa. Ça te fait chialer tout du long, mais c'est très sympa comme film. Les ouais. Nouveaux mutants, New Mutants, c'est pas une grande adaptation d'un comics.
Sachant que, ouais, et Nos étoiles contraires, c'est aussi
une adaptation. C'est une adaptation, ouais.
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 J'avais trouvé ça trop gnangnan. Je crois que c'est pas le sujet.
Non. Ouais, c'est pour faire pleurer.
J'ai vu aucun des deux.
J'ai beaucoup aimé.
Benjamin Cavell. Voilà, j'ai rien trouvé sur lui, donc je vais pas en parler. C'est produit donc par CBS, bien sûr, mais aussi par Vertigo Entertainment, qui est une société qui a fait beaucoup de remakes US de films d'horreur japonais. Donc c'est eux qui ont fait toutes les adaptations de Ring, Grudge, Dark Waters. C'est eux aussi qui ont fait le très regrettable Death Note sur Netflix en 2017.
Ah, c'était pas bien.
Ah non, c'est nul.
Et c'est eux qui ont fait les adaptations kingiennes Hit, Part 1, Part 2 et Doctor Sleep. Donc ça s'équilibre dans la force.
Ils sont plutôt dans le positif parce que même tous leurs remakes de films d'horreur japonais sont globalement pas mal. Ça vaut pas les originaux, mais ils sont plutôt de bonne qualité généralement aussi.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'avais beaucoup aimé The Grudge.
Ouais.
Mais parce que j'ai un crush Sarah Michelle Gillard. Voilà.
Ah ouais, mais comme beaucoup de gens,
on comprend ouais,
à cette époque.
Exactement. Au casting, alors là, il y a beaucoup de personnages parce que c'est le fléau. Donc, je vais les faire dans l'ordre de la fiche Wikipédia. Nous avons James Marsden qui joue Sturenman.
Marsden,
pardon. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez vu Sonic. Récupère Sonic dans Sonic.
À ne pas confondre avec le gars qui joue Spike dans Buffy, qui a un nom assez similaire, parce qu'après on est déçu sinon.
Certes.
On croit que c'est celui qui vient de Buffy, et en fait non, et c'est un peu la déception.
C'est Cyclope des X-Men.
Ouais, c'est pareil, c'est pas son plus grand rôle.
Et il joue dans Westworld aussi.
Et dans Westworld, il est pas.
Ah ouais là. Ah oui, vrai. C'est vrai. Exact. Exact.
Après, on a Odessa Young, qui joue Franny Goldsmith. Alors elle. Je la connaissais pas avant. J'ai vu qu'elle a joué dans Looking for Grace, qui a eu des prix. Mais je vous avoue que je ne la connaissais pas.
Pas vu.
Je regarde en même temps le chat. Hein.
On gère le chat. Ouais. Vas-y.
Il y a des fans de Spike. Il y a Owen Teague, qui joue donc Harold Loder. Donc lui, il a joué dans Bloodline, il a joué dans Hit, et il a joué dans Dark Mirror, dans l'épisode de Archangel. On reviendra après
Black
sur
Mirror
la performance
Dark
de chacun.
Attends, t'as dit Dark
Black Mirror.
Mirror,
pardon.
Ah oui, je connais pas cette série, ça a l'air. Ouais. Ça peut être bien.
C'est le mix entre Dark Angel et Black Mirror.
Mais alors, du coup, moi j'allais dire, attends, dans Dark Angel, il joue, je me souviens pas de lui.
On a Alexander Skarsgård, qui est frère de Bill, qui joue Pennywise.
De beaucoup de gens.
De beaucoup de monde, il y a beaucoup de Skarsgård dans le cinéma.
Ouais.
Ils sont très nombreux.
Et si vous vous rappelez bien, il jouait dans True Blood.
Tout à fait.
Donc lui,
souvent tout nu comme dans la série là.
Pardon ?
Je dis souvent tout nu comme on peut le voir dans la série aussi.
C'est vrai.
Oui.
Et exactement, c'était Eric dans True Blood. On a Whoopi Goldberg, donc elle, j'ai pas besoin de citer les rêves bien sûr, qui joue Mère Abigail. On a Amber Heard qui jouait dans Zombieland et dans Aquaman. En fait, elle est très connue pour ses trucs extra cinématographiques, mais en soi, elle n'a pas eu de grand rôle.
Pas pour son art.
Qui joue Nadine Cross. On a, alors, je vais l'appeler Jovan Adepo. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Qui a fait une toute petite apparition dans Watchmen 2019. Mais pareil, lui, il n'avait pas une grande carrière avant. Et lui, il joue Larry Underwood.
Ah, d'accord.
Le fameux. On a Henry Zaga, qui jouait dans Teen Wolf et dans 13 Reasons Why. Et lui, il joue Nicandros. On a Nat Wolff, qui jouait Light dans le fameux Death Note de 2017.
Et là, il joue Lloyd. C'est la même maison de production, ils aiment bien regarder généralement les gens qu'ils connaissent.
Ouais. On a Irène Bédard, alors, qui joue Ray Brentner. Elle, c'était la voix de Pocahontas dans le Disney, en VO. Et elle a aussi joué dans un direct ou DVD dans l'univers du jeu vidéo de Turok.
La consécration.
Le jeu était pourri, alors j'imagine pas le.
C'est
le
mieux que j'ai
DVD.
Trouvé dans sa filmo. Hein. On a Brad William Henke, qui est un ancien linebacker des Broncos de Denver et qui joue Tom Cullen. Mais ça se voit
il
un petit peu à sa
bien.
Carrure.
Oh, mais surtout, Tom Cullen, l'acteur, a joué dans Orange is the New Black.
Il joue aussi dans Orange is the New Black et il joue dans Space Jam.
Et il joue un rôle qui est tellement à l'opposé de ce qu'il fait dans Orange is the New Black, un truc, mais tellement à l'opposé de ce qu'il fait là, que j'étais un peu inquiète que ce soit cet acteur-là, et mais il est excellent.
Ouais, je pense qu'on en reparlera, mais le casting est assez ouf quand même.
Mm-hmm.
Alors, je viens un peu le chat. Alors, Zeus, Death Note n'existe pas. Oui, c'est vrai. Et enfin, on a Greg Kinnear, qui a joué genre 10 millions de second rôle, mais rien de frappant. Voilà. Et il joue Glenn Batman.
Enfin, bon, il a joué dans Little Miss Sunshine, il a joué, enfin, il a fait quand même pas mal de rôles. Hein. Il a pas fait du Harry Potter aussi ? Non, Greg Kinnear, je sais
pas. Ouais, mais c'est tout le temps des second rôles.
Qui joue la poubelle ?
J'ai pas noté celui qui joue la poubelle.
Quoi ?
Eh ben super.
Il était pas mentionné dans la liste des main caractères sur la fiche Wikipédia. Je l'ai pas pris.
On le voit pas tant que ça, mais il est un peu célèbre.
C'est pas Ezra Miller ?
Il est spécial.
Si, c'est Ezra Miller.
C'est ça.
Et ben voilà.
Julien est perdu. Il sait pas qui c'est.
Non. Ça me dit quelque chose, mais je vous avoue, là, je...
Il a joué dans Les Animaux Fantastiques, que t'as peut-être vu récemment. Après, il a joué le Flash dans Justice League de... Non, Batman vs Superman de Zack Snyder.
Que j'ai effacé de ma mémoire.
Un Flash chelou qui fait des mouvements bizarres avec ses bras, là.
Ouais,
mais j'allais dire, il est pas connu pour faire des branques aussi, lui ?
Si, il a souvent des rôles un peu bizarres.
Voilà. Bon, voilà pour la liste des acteurs. Donc, il y a 9 épisodes, et on en reviendra après dans cette série, qui font chacun à peu près une heure. Donc on en a quand même pour notre argent.
Ouais, c'est ça.
Est-ce qu'on commence la part...
Vas-y. Non, mais on dépasse la première adaptation de 94.
Ouais. On la dépasse en tout point, hein, on peut le dire.
Je pense que c'était pas très dur de la dépasser.
Alors,
dans les retours qu'on a eus, certains disent qu'ils ont préféré la version de 94. Que c'était
plus
proche, je pense.
Oui, il y en a toujours qui préfèrent les premières versions. Ouais.
Ok. Bah,
ouin, c'était mieux avant, c'est ça ?
Ah ouais, non, là, il n'y a pas d'argument autre que c'était mieux avant. Parce que c'est de la...
Si, c'est peut-être un poil plus proche, parce que
c'était
reste dans l'époque, et puis c'est écrit par King, donc enfin, oui, pourquoi pas. Mais,
la narration était mieux maîtrisée quand même dans la première, donc c'est aussi plus intéressant à suivre que celle-là où c'est un peu...
Messieurs, dames, gardez vos arguments pour la partie débat avec spoil. On a un conducteur... On a un chat. Commençons la partie sans spoil. Est-ce que vous avez trouvé que c'était une bonne adaptation
du roman ? Alors,
attends,
est-ce qu'on pourrait pas juste, en quelques phrases, redire de quoi ça parle ?
Tu veux vraiment... Alors, ok, ouais, on peut répéter de quoi ça parle.
Écoute, pourquoi pas ? Peut-être qu'il y a des gens, ils se sont connectés, mais ils ne savent pas, par curiosité.
Alors, salut Mick. Oui, je sais qu'on est très beaux. donc, le fléau, c'est l'histoire d'une épidémie. C'est une grippe qui tue 99/99% des gens sur Terre. Oui, il y a des gens qui nous regardent depuis la Suisse ou la Belgique. Et en fait, ça va être toute l'histoire des survivants de cette pandémie. Donc, ça a été écrit bien avant la Covid-19, hein. Quand même, je le rappelle. Et en fait, vont s'affronter très vite deux camps. Le camp du bien, donc des gens qui rêvent d'une femme âgée noire qui s'appelle Mère Abigail et qui leur demande de venir la rejoindre à Boulder. Et le camp du mal, où ce sont des personnes qui rêvent de Randall Flagg, aka l'homme en noir, et eux vont se retrouver à Vegas pour faire la fête et la teuf.
La team
on peut
bien,
dire
voilà,
que c'est
sûr.
Le camp du système contre les anti-systèmes.
Ouais, oui, c'est ça, c'est les zadistes contre c'est les zadistes hippies contre les gens qui aiment l'ordre et les ingénieurs.
Je
pense qu'il est temps de faire un point de chat, parce qu'il y a au moins 4 personnes qui ont dit que j'avais raison, que c'était bien de rappeler de quoi ça parle. Et ça, on le dit pas assez.
Arrêtez de donner trop raison à Pomme, parce qu'après, elle devient insupportable.
Merci, je vous aime.
Après, elle a la grosse pomme.
Hop, je vais me relever un peu. Alors, est-ce que c'est une bonne adaptation du roman pour vous, sans spoiler ce qu'on y voit, comment c'est raconté, etc.
Moi non, voilà.
Toi, pas aimé cette adaptation. Pas trouvé que c'était une bonne adaptation, pardon.
J'ai bien aimé la série, le casting est ouf, mais je trouve qu'elle manque d'ambition et qu'ils ont oublié qu'adapter le fléau, ça veut dire aussi, pour bien adapter le fléau, il faut prendre des risques en étant long, en laissant traîner un peu les événements pour comprendre les personnages. Et c'est parce qu'ils ont fait. Mais okay. Elle est cool, hein, juste pour moi, elle marquera pas les mémoires, mais elle se regarde, mais c'est pas forcément une très bonne adaptation.
Ok.
Peut-être qu'un jour, les gens diront... Mais oui, l'épisode du roi Steven, vous parlez... Vous savez, il parle de cette petite série, là, j'ai oublié le nom.
Peut-être.
Les autres.
Moi, je... perso, j'ai bien aimé regarder la série en ayant lu le bouquin. Parce que c'était sympa de voir les personnages à l'écran. Et la série, il y a quand même du pognon, donc c'est joli. Après, je trouve que soit c'est trop long, soit c'est trop rapide, en fait. Pour moi, il y a un problème de rythme. Et, mais sinon, globalement, ça va. Mais effectivement, je pense pas que ça va marquer les mémoires, quoi. C'est voilà, c'est joli, il y a des explosions, donc voilà. Ça passe.
Ce serait pas un peu le Rivella de l'adaptation?
Non, parce que j'aime bien quand même, tu vois. C'est pas, je sais pas si j'aime ou j'aime pas, c'est quand même j'aime bien, tu vois. Donc c'est pas Rivella. Ah, okay.
Okay. Elle se regarde assez facilement quand même. Mm. En effet, oui. Ouais, il y a du budget, elle est agréable à regarder.
C'est
ouais.
Ça.
Emric,
moi je trouve que en fait c'est une bonne adaptation de la trame principale de l'histoire, mais par contre il manque vraiment tout le fond, enfin tout le background des personnages. En gros les personnages, certaines de leurs motivations sont pas tellement bien compréhensibles. Nicandros, ben, il a vraiment une toute petite part dans la série, alors que bon, dans le roman, il est quand même plus présent, j'ai l'impression, dans mon souvenir. On le voit à peine. C'est vraiment un peu décevant, je trouve, mais sinon, globalement, j'ai bien aimé. Ils sont vraiment très très fidèles, même à la fin. Donc je trouve que c'est pas mal. Et je trouve que Randall est un petit peu... Il fait pas assez peur.
Ok.
Au niveau fidélité, moi, il manque mon passage préféré. Bon, on en reparlera.
Qui est le passage que je déteste le plus, du coup, moi, j'étais contente.
Oui, c'est celui-là.
Je voulais juste relever ce que dit Shinobu sur le chat. Donc, j'ai l'impression que sans avoir lu le livre, on doit être un peu perdu. Alors, j'ai eu la même impression que toi. Je me suis dit, t'as pas lu le bouquin, t'es vraiment paumé, quoi.
La narration est complètement...
la même question.
Voilà, tout est mélangé, donc, ouais. Je me suis dit,
ils ont fait une inverse de ça, quoi. Voilà.
Je pense qu'ils ont essayé de prendre des risques justement sur la partie narration, sur la partie, on va dire, montage, mais que c'était pas là qu'il fallait faire, quoi.
Moi, alors je vais donner mon avis, c'est maintenant.
Vas-y, Pomme.
Moi, je l'ai bien aimé en complément du livre.
Tu veux pas que je lance un bandeau, genre la vie de Pomme
avec un petit jingle, avec des petites pommes qui dansent. Donc moi, j'ai bien aimé en complément du bouquin, parce que j'avais l'impression de voir plein de clins d'œil, de trucs, le fait que, donc là... La timeline soit tout mélangée. Hein?
Non, tu voyais plein de clins d'œil parce que ça te rappelait le livre, quoi.
Oui, mais je me suis quand même posé la question de quelqu'un qui n'a pas lu le livre, du coup, qui n'a pas les références que moi j'ai. Est-ce qu'il apprécie autant ou pas? Alors, la personne qui partage mon canapé, je crois, a bien aimé sans plus. Je ne veux pas trop parler à sa place, mais. Donc, j'ai bien aimé en complément du bouquin. J'ai bien aimé que des parties que j'ai trouvées très chiantes ne soient pas dans la série. Après, peut-être qu'elles auraient été bien dans la série. Après, je rejoins un peu tout le monde. Il y a des choses où ça va beaucoup trop vite et c'est vraiment dommage. Et je rejoins ce que dit Nono Darko dans le chat. Alors lui, il dit qu'il a préféré la mini-série de 94. Ça, je peux pas dire, je l'ai pas vue. Mais parce qu'elle s'attarde plus sur le tome 1, qui est la meilleure partie de l'histoire. Et je suis totalement d'accord avec lui. Et dans la série, j'ai trouvé que c'était un peu pareil. J'ai préféré... tout ce qui se passe avant, ce qui correspond à la dernière partie de l'histoire dans le bouquin.
Ok. Voilà. Je fais un petit point de chat avant de donner la parole à Grand Poil. Donc on dit bonjour à Shingy, on dit bonjour à Klarmitch.
Klarmitch,
pardon. Et globalement, les gens sont assez d'accord avec vous pour le moment de ce que je lis. Hein.
Oui, tout à fait.
Il y a des avis un peu plus tranchés. Je vois que JL Premier dit très moyenne et oubliable. Un peu dur.
Peu vrai.
Sur le côté très moyenne, c'est peut-être un poil vache. Sur le côté oubliable, je pense que c'est complètement. Hein, personne n'y reviendra, tout le monde en aura.
Je sais pas. Mais encore une fois, moi je pense que je m'en souviendrai, mais en lien avec le bouquin, parce que j'ai beaucoup aimé mettre des vrais visages sur certaines personnes.
Ouais.
J'ai adoré voir Randall Flagg, que jusque-là je trouvais être un personnage vraiment bidon dans tous les bouquins qu'on a étudiés et où il est. Vraiment, je le trouve nul. Et là, qu'il soit enfin incarné, que je puisse mettre un visage, des mimiques, une démarche, etc. Mais moi, ça m'a aidé à aimer ce personnage dans les livres. Et même dans les livres, pas le fléau, les livres, tous les autres livres où il est, en fait.
Même les yeux du dragon.
Ben, au moins, j'arrive à le visualiser pas comme un espèce de pauvre type un peu mou qui sert à rien, qui fait semblant d'être méchant, mais.
Ouais.
Voilà.
Okay. Mais c'est vrai, quand on a lu le bouquin, pour moi le principal intérêt c'est parce que ça a un casting de qualité et qu'en effet on met des têtes sur des personnages qu'on n'avait que par écrit et que après ouais, si on l'a pas lu, je suis pas sûre qu'il y ait un vrai intérêt à cette série.
Tout à fait d'accord.
Yes. Oh, je te sens pas d'accord, Julia. C'est bon, on va bientôt débattre. Je pense que ça va être bien. j'ai passé un moment correct devant la série, mais globalement c'est pas une adaptation de fou, et c'est pas une grande série non plus. C'est pas une bonne adaptation, parce que pour moi le cœur du fléau c'est les personnages, c'est les relations entre eux, et que du coup là on passe trop vite, on a d'empathie pour personne. Enfin, justement, on partit dû à la narration qui est complètement éclatée, où on est à un moment, on va dire, dans le passé, on y... Oh, mon Dieu, les événements graves arrivent. On est 3 ans après, on voit les mêmes personnages qui sont ensemble, tu fais bon, ben on sait qu'ils vont survivre, donc tout ce que tu vas me montrer jusque-là... ça perd forcément de grandement de son intérêt. Mais après, j'ai pu mettre aussi des ça m'a fait plaisir de voir des personnages différents des acteurs différents sur les personnages, là où dans la série de 94, j'étais pas emballé par tous. Tu vois, par exemple, dans la série de 94, Larry était meilleur, je trouve, que celui qu'on a là, où encore une fois, parce qu'on le voit pas souvent, on le voit pas assez à l'écran, il a des relations avec quasiment personne, sauf au moment où il dit tiens, il y a une réunion du conseil, voilà, t'as une relation, t'es là.
Moi je préfère le Larry de la série que le Larry du bouquin. Comme pour Randall Flagg, en fait, ces deux personnages, je suis contente de les avoir vus dans cette série. Pour moi perso, ouais, mais... Et je suis d'accord avec toi sur le truc de... que t'as pas d'empathie, c'est que je me souviens de certains personnages... dans le bouquin, en fonction de ce qui leur arrive, même dans les parties où je me faisais chier à le lire, où vraiment j'en avais marre, c'est arrivé que pour certains personnages, je ressente des trucs, tu vois, genre, ah non, mon Dieu, ah oui, trop bien. Et là, bon. Ouais. Mais ouais. Je pense que cette série est sortie un épisode par semaine, et il faut la regarder comme ça. C'est pas une série à binge-watcher pour moi.
Je trouve très dur avec cette série.
Eh ben alors, vas-y, donne-nous ton
avis. Vas-y, Julien, dis-nous tout.
Alors déjà, je trouve que... Alors je sais pas si c'est un directeur ou une directrice de casting, mais ils ont pris des têtes qui collent parfaitement à ce que je projetais en fait dans mon imagination des personnages, à part Randall Flagg, que je trouve un peu lège,
un peu trop
beau gosse. Et peut-être Stu, que je trouve un peu trop beau gosse aussi, pour le coup, parce que faut se rappeler que Stu, c'est un peu Stephen King quand même.
Non, Stu, il va pas du tout, c'est pas le bon acteur. Physiquement, c'est pas le bon acteur.
Ouais. Et c'est vrai que Nono Darko disait que Gary Sinise qui s'appelle
Gary Sinise,
ouais. Qui joue Stu dans la version de 90 est bien mieux.
Ouais.
Enfin, bien plus proche de ce que je me faisais du gars un peu, comment dire, parce que Stu, c'est quand même un gars qui est. C'est pas un cutéreux, quoi, mais un peu quand même, quoi. C'est un gars qui a pas eu la vie qu'il devait avoir et qui vit au fond du Texas, quoi. Alors que le Stu qu'on voit là, c'est un mannequin, quoi. Un poil trop. On en reparlera après la partie expo, mais je trouve que le choix de la chronologie, moi, il me plaît. Parce que. Quand t'as pas lu le livre, il te perd, c'est clair. Mais quand t'as lu le livre, bah, je sais pas, j'ai trouvé ça. Comment dire, plus intéressant à suivre. Que juste de dérouler le livre dans, comment dire, sa chronologie.
Je trouve que c'est un peu décevant au niveau de la tension qu'on pourrait ressentir envers les personnages. On sait que certains survivent et tout ça, et du coup, on perd la petite tension qu'il pourrait y avoir dans les flashbacks à ce sujet.
Mais alors, moi, je pars du principe qu'on a lu le livre. Donc, en gros, tu sais quand même qui meurt, qui meurt pas. Je trouve que l'image, elle est ouf, enfin, tu sens qu'il y a quand même du fric, quoi.
Ouais.
Enfin, faut se rappeler que puis là on va se taper les Langoliers bientôt. Vous allez voir ce que c'est une adaptation qu'il n'y a pas d'argent. Hein.
On va voir la différence.
Là c'est quand même.
En fait, si on résume tout dans ce bouquin, dans cette adaptation, tous les corps de métier sont fabuleux sauf les scénaristes. Ou les monteurs, je sais pas quel moment ça a été décidé.
Non, c'est un choix.
Non, ça va.
Mais ouais, c'est une question de choix en fait, c'est tout.
Ouais, mais c'est ça.
C'est un choix. Après, je vous rejoins dans le sens où c'est pas genre la meilleure adaptation de King ever. Mais pour moi, elle est quand même entre moyen plus et bon moins, quoi. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont cool. J'ai adoré voir Vegas, quoi. Franchement, ouais. Bon, moi, je suis team Vegas, mais j'ai adoré ce Vegas-là de luxure.
Vegas, ouais, je suis pas d'accord, moi. Avec
bah, justement, je trouve que ça allait pas avec le message qui était dans le bouquin, où justement, Vegas, voilà. C'était l'ordre. Il pouvait s'amuser, c'est, effectivement, mais c'était l'ordre. C'était pas axé sur cette partie décadence, débauche.
Mais c'est ça qui était bien.
Bon, et puis on est en 2021, à un moment donné, ça serait bien d'évoluer sur ce qu'on montre et les... Enfin...
Non, en fait, c'est pas que ça. Là, non, je vais pas spoiler tout de suite, mais en fait, ce qu'ils montrent de Vegas, c'est comme dit Grand Poil, c'est pas censé être que ça. C'est pas... c'est des gens qui choisissent la facilité, mais parce qu'il y a un cadre qui est établi et parce que c'est pas juste vouloir tuer des gens et baiser, quoi. Alors que là, il y a que ça qui est montré, c'est juste le pays de la débauche. Alors que c'est pas, normalement, c'est pas que ça.
C'est ça, c'est le pays du BDSM et du QI un peu bas, on dirait. Bah et alors ouais. Que non, dans
non, il y a les ingénieurs et tout, on les voit travailler un petit peu dans le barrage. Un
rapide.
Vite, ouais, très très vite fait sur une vue aérienne par drone. Hein. De souvenir.
très très loin le drone.
Bon, à peu près sauver l'angle de la caméra.
Donc je avant de. Ah voilà, et nous découvrons Emmerich.
Ça, c'est quand Grumly se change.
Avant qu'on passe à la partie avec spoil, est-ce que du coup vous recommandez aux gens de se prendre un mois d'abonnement à StarsPlay pour le regarder?
Non.
Oui, quand même.
Oui, parce c'est que combien un mois d'abonnement est à 5 balles,
je crois.
On rappelle plus, qu'on n'est pas du tout sponsorisé par StarsPlay. Hein. D'ailleurs, on n'a pas été bon sur ce coup-là, on aurait dû les contacter.
Surtout, sur StarsPlay, il y a deux excellentes séries qui sont Castle Rock et Mister Mercedes.
Ah, oui.
Donc on prend.
Pour le reste de King, allez-y.
Oui, c'est ça. Et puis s'il vous reste du temps à la fin du mois de balles, vous faites le fléau. Voilà.
Il y a des avis dans le chat, Julien, si tu veux faire un point de chat.
Voilà, ouais. Alors attends, faut que je lise. Julien, tu es aveuglé par la finitude du fléau. Bon, j'y ai le premier. Est-ce que King fume de la weed de grand poil?
Non, il prend de la cocaïne ou de l'héroïne.
Il prenait cocaïne.
Il prenait.
Alors, Kevin j'ai répondu Bourbon ça parce qu'il y a Kevin Bourbon qui se demandait si on trouvait pas que Glenn avait une certaine ressemblance avec King.
Non.
C'est juste pas le même poison.
Cécile 2195 qui dit qu'il faut qu'il soit charmeur, Randall. Mais moi, je trouve pas tant charmeur que ça, quoi. Franchement, c'est le moins bon des personnages de la série.
Un peu trop doux, quoi.
Moi, j'aime bien.
Bon. Je regarde un peu ce que j'ai d'autre dans le chat. Mmh. Miguel Ferrer, meilleur bras droit du méchant.
C'est celui qui joue Lloyd dans la version de 94. Mmh. Qui est beaucoup mieux que le Lloyd de cette version-là que je supporte pas.
Ouais, c'est dommage, il est raté, Lloyd. Il est raté.
Lloyd, c'est un personnage qui a été récupéré par Flag, qui est censé être à la fin intelligent, enfin qui s'impose. Là, dans la série, c'est une petite frappe, t'as envie de lui mettre des tartes dès qu'il ouvre la bouche. Il est insupportable du début à la fin.
Ouais, au début c'était cool, mais en effet il a pas l'évolution qu'on attend de lui. Donc,
c'est ça.
Au bout de 4 épisodes, t'en peux plus, quoi.
La première fois que tu vois, tu dis ah chouette, ils ont fait un truc un peu différent. Il va y avoir quelque chose qui va changer. Et puis à la fin, t'es ta gueule.
Bon, on passe à la partie avec spoil.
Allez.
Un petit générique pour.
Donc, si jamais vous voulez pas entendre la suite, bah, c'est maintenant qu'il faut partir. Ou non.
Ne partez
pas. Juste couper le son. Allez faire autre chose, mais restez connectés. Merci.
Ça y est, on peut spoiler.
Ouais. Yes. Et bah à la fin, tout le monde meurt. Non, c'est pas vrai.
Mais certains meurent.
C'est au début. C'est au début que tout le monde meurt.
Alors, ma première question pour le débat, c'est est-ce que du coup, même si vous en avez un petit peu parlé, vous êtes OK ou pas OK avec le fait d'avoir totalement déconstruit la chronologie du roman, puisque dans cette série, nous n'arrêtons pas de faire des allers-retours entre le passé, le présent et parfois le futur pour raconter l'histoire.
Moi, dans la mesure où je connais l'histoire...
Vas-y,
dans la mesure où j'ai lu le bouquin, ça me dérange pas de revoir l'histoire taillée d'une autre manière. Du coup, c'est moins ennuyeux. Mais je suis pas sûre que ça m'aurait plu sans connaître l'histoire. Comme ça a été dit dans le chat et comme on l'a dit, ça désamorce constamment la tension, on a peur pour personne. Enfin, bon, ça, c'est dommage.
Sauf la fin, je crois que la fin, elle n'est pas vraiment racontée. Vraiment la toute fin. Le dernier, enfin, l'épisode 8, parce que pour moi, l'épisode 9, on en parlera
on en
après.
On en reparlera de cet épisode.
La
horrible.
Fin, qui est pour moi l'épisode 8, on sait pas, enfin, si t'as pas lu le bouquin, tu sais pas ce qui va se passer quand même dans ce que te raconte la série.
Non, mais tu sais un peu où.
Il manque la meilleure partie du bouquin.
Bah oui.
Je suis dégoûtée. Mes 150 pages préférées, quoi.
Lesquelles?
Quand ils rentrent de Vegas, Tom et.
Istou.
Ah oui.
Ouais. Ah, il
ah ouais là c'est le.
Il apprend un peu la vie à Tom et qu'il trouve un cinéma et qu'ils sont coincés par le froid et que machin et que moi j'ai adoré parce que c'est comme un road movie mais par écrit avec deux mecs qui apprennent à se connaître et avec Tom Cullen qui est un de mes persos préférés de King, donc en plus t'es vraiment coincé que avec lui, t'as plus les 50 autres personnages qui sont cool mais il y a quand même beaucoup de personnages dans le fléau et moi il me manquait ça, j'attendais un peu ce truc cette petite demi-heure émouvante de eux deux en train d'essayer de rentrer à la maison et en fait d'un plan à l'autre tu passes à une qui est enceinte qui est plus enceinte et puis pouf bah eux deux ils arrivent comme si ils s'étaient téléporté quoi, tu vois,
c'est ça,
puis, trop dommage.
Et puis tout le sauvetage du chien, quoi.
Oui.
Mais ouais, de ouf.
Ouais,
le sauvetage de Stu par le chien, c'est.
Putain, Kojak, on le voit pas longtemps.
Putain, pour bon, on en est déjà sur le dernier épisode, là. Ouais. Enfin, on est sur l'épisode 8.
Pour moi, c'est ce qui démontre ce que je reprochais un peu tout au début, qui est si tu veux faire le fléau et que tu veux le faire. Bien et fidèle au bouquin, il faut prendre le temps d'être long, parce que le fléau, c'est ça, c'est cette histoire-là, c'est cette profondeur des personnages.
Il faut que ça fasse 18 heures.
Bah ouais, il faut prendre le risque de faire un truc comme une série dont j'ai oublié le nom, enfin un truc un peu contemplatif, tu vois.
Lost.
Il y a JL. Il y a JL premier.
Sur un parc avec des robots.
Westworld.
Ah. Westworld.
Oui. Ouais, j'allais dire Westworld aussi.
Pour moi, il faut faire un Westworld.
Ouais, je suis d'accord, oui.
Je me suis fait chier devant Westworld.
Bah ouais, mais... un truc, mais il y a un peu plus d'action dans le fléau, mais plus contemplatif et plus en longueur.
Non, parce qu'en fait, dans le fléau, il n'y a pas d'action,
non,
réellement.
Non,
du tout. Il n'y a rien.
Bah non. T'as 1200 pages et c'est juste, une grippe qui tue tout le monde assez rapidement. Et oui. Ils vont à Boulder, ils vont à Vegas, ils reviennent à Boulder et c'est fini, quoi.
C'est des mecs qui font de la rando après la grippe, quoi. Donc je disais, il y a JL premier dans le chat qui dit que j'ai perdu sa phrase. Ok.
Ils avaient le temps et ont oublié
toute la partie de la propagation du virus qui est super dans le bouquin. Et c'est vrai que cette partie dans le bouquin est géniale.
Mm-hmm.
Et là, ils sont allés super vite voir. On l'a pas vu.
Si, on l'a vu.
Est-ce que vous savez si c'est quand même cool, quoi.
Mm-hmm.
Est-ce que vous savez si potentiellement ils ont revu le montage ou l'écriture? Par rapport au fait qu'on est justement en pleine pandémie.
Non, ils ont réussi à terminer le tournage au début. Ils tournaient au Canada, ils tournaient à Toronto. Et ils ont réussi à terminer le tournage alors que nous, on commençait à être confinés. Donc,
non, mais oui, mais ils auraient pu choisir au niveau du montage. Ils auraient pu faire d'autres choix.
Ouais, et justement, après, ils ont décidé de rien toucher et de quand même la sortir malgré le contexte.
Ils ont eu raison.
Oui, tout à fait.
Oui.
Oui, il fallait pas...
Et d'ailleurs,
ça fait bonne presse, quoi.
Est-ce que ça vous allait que ce soit adapté à notre époque?
Oui,
ouais,
complètement.
Ça change pas grand chose vu qu'il se retrouve.
Ouais, il y a pas grand chose, ouais.
Il se retrouve à poil avec plus de technologie de toute façon au bout d'un moment, donc.
Ouais, il revient à l'âge.
Que ce soit un peu plus contemporain, ça me choquait pas, et puis surtout c'était, enfin. Pourquoi s'embêter à remettre ça dans le passé, dans les années 80, quand il n'y en a pas besoin? Là, il n'y avait rien qui justifiait particulièrement le contexte des années 80, alors qu'en plus, on avait tout ce qu'il fallait autour de nous.
King, il écrit toujours... Enfin, ses bouquins se passent à la période où qu'il vit, à l'époque où il est en train d'écrire. Donc, c'est jamais un choix d'époque vraiment importante pour le bouquin, etc. Donc, autant le replacer dans le présent.
Il roule pas en Tesla, et moi, j'étais un peu déçu.
C'est compliqué l'électricité, la recharge, t'as plus de chances de trouver une bagnole avec de lui siphonner le réservoir que de trouver une batterie et de la plugger dans ta Tesla.
Alors ça, je ne suis pas sûre, parce que sache qu'on ne peut pas siphonner les voitures récentes.
Ah bon?
J'ai eu le... Oui, on a eu l'occasion
elle
de tester quand il y avait une pénurie d'essence. Donc je confirme, tu ne peux pas. Sans compter que l'essence, elle moisit au bout d'un moment, de quelques mois. Donc ça, c'est un truc qui est souvent reproché aux séries post-apocalyptiques.
Que, ah oui, d'accord.
Ouais. Je ne sais plus combien c'est, mais c'est quelques mois, c'est assez rapide.
Ok.
D'accord.
Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait des acteurs ou des actrices qui sortaient du lot ?
Bah oui. Oui, évidemment.
Owen Teague.
Ouais, Harold. Harold, il était vraiment... il était vraiment
cool. En plus, non. Surtout que moi, je ne le connaissais pas, à part, tu l'as mentionné dans le casting, on a deux personnes, enfin, on a deux acteurs du multivers, qui est Alexander Skarsgård, qui est le frère de Bill, qui a joué Gripsou dans les deux ça récents. Et on a justement Owen Teague, qui fait Harold Loder, qui est lui, et Patrick Hockstetter, dans les deux ça aussi. Et dans les deux ça, il a un rôle pas vraiment intéressant, c'est juste un des sous-fifres d'un des bullies de l'école du club des ratés. Et on voit pas trop ce qu'il peut jouer, mais là, cet acteur, son personnage, il m'a...
Il est tellement bien, Harold.
Mais incroyable, même juste sur son visage, il se passe tellement de choses. Ouais, incroyable.
Ouais, niveau la palette d'émotions, tu ressens ce qu'il ressent vraiment. Enfin, il exprime vraiment... Ouais. Puis tu te dis, c'est le Harold un peu triste, mais un peu sale que j'ai lu dans le bouquin, quoi.
Bah c'est très ambivalent. C'est... Rien que sur son visage, tu vois qu'il doute au moment où il tend le bouton à Nadine pour faire péter Boulder. Sur son visage, tu comprends qu'il n'est pas tout à fait sûr de faire ce qu'il faut faire et qu'en même temps, il est un peu coincé dans ce truc-là. Enfin, c'est un très très bon acteur.
Ouais, de toute façon, c'est le mal aimé et le mal compris du fléau, Harold.
Et oui.
Ouais, c'est surtout.
Ouais, mais il le dit, et là, ils le reprennent, je pense, quasiment mot pour mot dans la série, qu'il y a un moment, il avait le choix de s'intégrer, et puis il dit, bah non, fuck it, hein. J'en ai chié jusque-là, maintenant vous allez en chier à ma place aussi.
Ouais, mais on a un peu pitié pour lui, parce qu'on se dit, en effet, c'est le gamin qu'on a maltraité, qu'on a mis de côté, et si on avait fait un peu attention à lui, il en serait pas là, quoi.
Ouais, non, j'arrive vraiment pas à avoir d'empathie. J'adore ce personnage, il est extrêmement bien joué, etc. Par contre, j'arrive pas à me dire, oh non, le pauvre ici. Parce que, ouais, il a eu une enfance de merde, parce qu'il était maltraité par ses camarades, et peut-être par sa famille aussi, qui avait l'air de préférer la grande sœur. Bon, après, il y a un moment où t'es adulte et tu fais des choix, quoi. Ouais.
C'est-à-dire que dans la série, il est totalement creepy, ce gars-là. C'est quand il regarde par l'œilleton de la barrière pour... espionner Freddy, qui fait je sais plus quoi, qui doit être en train de bêcher le jardin ou je sais pas quoi.
Elle est en train d'enterrer son père.
Non,
pas au tout début.
Non, pas la première fois qu'on le voit. La première fois qu'on le croise, l'épidémie n'est pas encore arrivée.
Ok.
Donc, du coup, c'est sûr que ça te rend pas sympathique.
Ouais. D'ailleurs, à l'extrême inverse, dans les personnages qui sont pas remarquables, Franny dans la série.
Eh ben alors elle est assez comme moi je l'avais imaginé dans le bouquin, c'est-à-dire bon bah elle est là, elle est là pour faire le bébé qui va survivre, mais c'est tout. C'est
non, c'est le vide quoi. Ouais,
ouais, là il y avait pas grand chose. Non, dans le livre il y a quand même il y a des passages à sauver où elle a une importance dans la prise de décision, dans la manière dont elle est construite. Là il y a juste rien.
Ah ouais.
Même quand il y a les réunions du club des cinq, elle sert à rien.
Alors qu'au contraire, celle qui faisait peur, je pense, quasiment à tout le monde, c'était Whoopi Goldberg en Mère Abigail, et moi j'ai adoré.
Ah non.
Moi je suis toujours déçu. Hein.
Moi je l'ai vraiment adoré parce que les moments où elle devait avoir l'air faible, vraiment comme une petite vieille qui est en train de souffrir, elle le faisait bien, et quand elle devait imposer sa volonté, ce qu'elle fait dans le bouquin, elle arrivait à te le montrer à l'écran aussi. Donc pour moi, elle a vraiment apporté quelque chose, et elle a réussi à exprimer tout ce que j'imaginais de Mère Abigail. Et tu vois, si je la compare à celle de 94, où elle était juste. Toute frêle, vraiment le côté force de volonté, je le ressentais moins que quand c'est Whoopi Goldberg qui essaie de s'imposer.
Je pense qu'il y en a une qui est quand même une meilleure actrice que l'autre, quoi.
C'est une bonne actrice, mais moi je voyais Whoopi Goldberg et c'est pas de sa faute, hein, c'est juste moi qui ai pas réussi à voir Mary Abigail pour le coup.
Moi en plus, Mary Abigail, ouais, vas-y.
Je suis déçu que ce soit une vieille dame en EHPAD. Alors que Mère Abigail, c'était quand même une dame qui vivait tranquille toute seule chez elle.
Enfin, qui bêchait son jardin à 108 ans.
Ouais, ça c'était.
Ouais, qui va tuer les poules.
Transformation.
Le témoignage d'une époque aux États-Unis et qu'une fois de plus, on perd quoi. Elle représente beaucoup de choses, Mère Abigail, et là, elle sert à rien quoi. Enfin, à part
mais là, c'est le personnage là pour le coup. Oui, c'était.
Et je maintiens que Nichelle Nichols, qui jouait Uhura dans Star Trek, aurait été un meilleur choix. de Mère Abigail.
Ça aurait pu, mais je sais pas.
Alors je sais que Pomme, moi, tu as beaucoup
elle,
aimé
elle avait
Tom Cullen aussi.
Elle a le physique un peu frêle que pourrait avoir que qu'avait Mère Abigail dans le bouquin.
J'ai pas entendu ce que t'as dit, Julien.
J'ai dit, je sais que tu as beaucoup aimé Tom Cullen aussi.
Ouais, alors déjà, je vais finir avec Mère Abigail, qui est un personnage que je n'aime pas déjà dans le bouquin. Autant tout le passage où on explique son enfance et du coup on traverse les États-Unis sur un siècle grâce à elle, c'est super intéressant, mais c'est un personnage que je n'aime pas. Je n'aime pas toute l'histoire autour d'elle en fait et toute la. Comment on dit ? L'intrigue autour d'elle. Bon voilà, ça fait partie pour moi des gros points négatifs de cette histoire, que ce soit dans le bouquin ou dans la série. Mais ouais, donc. Et en plus, Whoopi Goldberg pour moi collait pas. Et sinon, ouais, Tom Cullen. Waouh, mais vraiment, j'ai été bluffé par ce personnage, par cet acteur.
Ouais. Ah, il était trop bien, il était touchant, il était vraiment.
Mais oui.
La façon qu'il avait de jouer justement ce côté un peu handicapé mental justement de Tom, il le faisait de manière naturelle et pourtant en plus il le fait de manière un peu énervante, hein, répéter toujours la même phrase.
Mais ouais, t'as envie d'être patient.
Ouais. Et il était.
Ah, il est d'autant plus incroyable, comme tu disais, Pam. Moi, je le connaissais que dans Orange is the New Black,
pareil.
Où il a un rôle complètement à l'opposé. Et quand il l'avait annoncé au casting, j'ai eu peur, parce que évidemment, forcément, je voyais ce rôle-là attaché à cet acteur-là. Et en fait, à l'instar de Whoopi Goldberg, moi, quand je l'ai vu, lui, il m'a fait oublier directement là où je le connaissais avant.
Non, non, mais complètement. Il est. Il n'y a pas
bien.
De fausse note dans son personnage.
Et puis. Quand il est à Vegas, c'est tellement drôle.
Ah ouais.
c'est drôle. Et pour le coup, là, j'ai beaucoup d'empathie pour lui. Tu vois, autant Harold.
Oui, bah, alors en plus, quand il est à Vegas, c'est le seul moment en connaissant l'histoire où j'ai un peu stressé, hein, en me disant le pauvre, il va se faire attraper, quoi. Ou le pauvre, il est vraiment maltraité. Qu'est-ce qu'il fait là ? Ils vont voir qu'il est là, qu'il devrait pas être là. Après, le reste. L'explosion en Boulder, rien à secouer.
Bah, vu que, en plus, moi, c'est cette partie-là, Vegas et tout ça, je lisais qu'une page sur deux, je m'en souviens à peine. Du coup, j'étais plus sûre à 100% de ce qui lui. Je savais qu'il revenait, puisqu'il ramène Stu. Il ramène, oui, Stu.
Oui.
Mais j'étais plus sûre à 100% de qu'est-ce qui lui arrivait avant de rentrer.
Alors, Madame 121, l'acteur de Tom, c'est Brad William Henke. Ou Henke, je sais pas comment on dit. H-E-N-K. Alors, moi j'ai aussi beaucoup aimé Larry, bien sûr. C'est mon personnage préféré.
Oui, moi aussi, j'ai beaucoup aimé.
Et alors, je sais plus s'il y avait une polémique ou quoi, parce qu'ils ont pris un acteur noir et que dans l'histoire il ne l'est pas.
Ça a dû gueuler. Il y a des cons qui ont dû gueuler. On va pas,
oui,
pas se mentir.
Il n'y a pas eu de polémique, il y a eu des ouin-ouin à la con. Et voilà.
Okay. Mm-hmm.
Je crois qu'il y a eu des ouin-ouin aussi parce qu'il y a un personnage masculin un peu Osef qu'on voit sur trois scènes. Qui était joué par une femme, le juge qui part.
Il y a des ouin-ouin que dans un sens, hein, quand un homme joue une femme ou quand un blanc joue un noir, il n'y a pas de ouin-ouin.
C'est pas faux. Et du coup, je l'ai trouvé bien parce qu'il est toujours sur la brèche aussi un petit peu, quand même, Larry, avec les femmes, notamment. Mmh. Et il le joue très bien. Et l'autre actrice que j'ai beaucoup aimée, c'est Amber Heard. Quand elle joue Nadine, elle joue très bien la connasse. Les passages où elle est avec Harold, c'est vraiment j'ai beaucoup aimé. Et tout ce qui est maquillage après, une fois qu'elle a forniqué avec Randall, ça fait bien flipper, quoi.
J'ai bien aimé sa fin. Elle exprimait bien ce désespoir qu'elle avait, justement le fait qu'elle avait plus le choix arrivé là, et tout ce tiraillement, elle le faisait vraiment vraiment très très bien.
Ouais. Pendant le livre, c'était un peu plus trash ce passage-là. J'ai regretté. J'ai trouvé que dans la série, c'était un peu souple.
Tu veux dire édulcoré ?
Oui.
Mais elle joue très bien la Dame Blanche, quoi. Et un jour, on fait un film sur la Dame Blanche, ça passe.
Moi, j'ai été un peu déçu par le fait que ça se voit moins sur elle qu'elle bascule petit à petit vers. Pas vers le mal, mais qu'elle est de plus en plus soumise à Flag. Elle le joue bien, mais il n'y a pas vraiment de changement physique comme c'est décrit dans le bouquin. Dans le bouquin, il me semble qu'elle a une mèche blanche
et ça,
que ses cheveux deviennent de plus en plus blancs au fur et à mesure.
Là, c'est sa robe. Elle change d'habit, elle a une robe blanche.
Mais
elle a les cheveux blancs aussi.
Il y a un truc qui est vrai dans ce que tu dis, Aymeric. Pour moi, c'est que le monde bascule dans le livre. En fait, c'est quand Nadine, elle va essayer de pécho Larry pour se dire si je nique avec Larry, je.
C'est bon, elle sera plus bonne pour Flag et Exactement. Flag ne voudra plus d'elle.
Et dans le roman, ça arrive à un bon moment. Et dans la série, ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe parce que c'est genre vraiment. Moi, je m'étais là en mode, mais quand est-ce qu'elle va essayer de le choper? Parce que c'est quand même important et tout. Et genre, tout est préparé, tout est prêt à sauter. Vas-y, je vais quand même essayer de te niquer vite fait. Bon, ben en fait, je m'en vais.
C'était un peu un passage obligé, mais qu'ils savaient pas où le caler. Ils ont dit, bon, on va le mettre là maintenant. De paf, parce que de toute façon, il faut que.
C'est genre, oh putain, on a oublié qu'elle voulait le niquer. Merde.
Julien, tu parlais de polémique. Il y en a eu une sur Amber Heard, justement. Moi, j'ai vu des articles passer sur des appels au boycott de la série. Parce qu'elle avait l'actrice a des histoires et des trucs en cours d'un point de vue judiciaire avec avec Johnny Depp. Mm-hmm. Donc du coup il y a eu des appels au boycott. Et je voudrais réagir à un truc que je lis dans le chat sur le fait que dans le bouquin Tom est noir. Non. En fait dans le bouquin on peut penser que Nick est noir. No, Tom n'est pas noir. C'est ça. Et on peut penser que Nick est noir.
Ah c'était Nick.
C'était Nick.
À cause de la traduction.
C'est un problème de traduction, en fait. C'est un problème d'interprétation sur le fait qu'il ait les cheveux frisés et qu'on l'appelle Babalouga en VO. Mais en VO, Babalouga, c'était une référence musicale qui, du coup, s'est transformée en cheveux crépus. Et Bamboula, dans la VF, qui fait penser qu'il est noir, alors qu'en fait, il n'est pas noir.
Il est d'origine grecque.
D'ailleurs, je me souviens que la première fois que j'avais vu l'adaptation de 94, j'ai fait... Nick, tu n'es pas noir.
C'est bizarre. Et ni dans la troisième adaptation.
D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que là, il y a peut-être aussi. Alors, pas que pour ça, mais il y a plus de diversité dans la série que dans le bouquin.
Oui.
Et ça faisait partie des choses qui avaient été reprochées à l'époque au bouquin, c'est que si tu les crois, il y a que les blancs qui survivent.
Ouais. Oui. Bah, surtout que dans le bouquin, il y a une scène avec des noirs où justement ils.
Je pense pas très bien, quoi.
Dans le tome 1.
Ouais, ça, quand ils prennent la radio, c'est vraiment en mode on les fait passer pour des sauvages.
Oui, c'est vrai, au tout début. Quand tout commence à tomber, en fait.
Ouais, c'est ça.
Et c'est ce que disait King dans son interview, dans une des interviews sur qu'est-ce qu'il pense de la série The Stand. Il disait qu'il était content de pouvoir transposer ça au présent pour mettre plus de mixité et aussi plus de diversité, vu qu'on a un personnage masculin qui devient féminin et tout. Plus un personnage féminin un peu plus fort et puis et un peu des ethnies différentes.
Puis ce que je trouvais bien à ce niveau-là dans cette série, c'est que t'as des séries où ça se voit qu'ils avaient un fichier Excel avec alors il nous faut une personne noire, check. Une personne. Là non, c'est la population de la vie de tous les jours et on se pose pas de questions sur pourquoi telle ethnie, pourquoi telle couleur de peau, pourquoi. C'est la normalité de la vie de tous les jours. Et pour
d'ailleurs,
ça, ça passe
en
bien.
En parlant de diversité, j'ai oublié.
Ils en font pas des caisses.
Une des filles qui se fait enlever par le mec au camion là. Qui est latino-américaine et qui justement va à Las Vegas. Elle
ouais. C'est dans Under the Dome. Rena ou Lena, je sais plus.
Diana.
Ouais, je sais plus.
Diana.
Elle jouait dans Under the Dome, elle joue une des
policières. Ah oui, la badass, ouais.
Ouais.
Et d'ailleurs, le personnage qui parle, on part un peu dans tous les sens, Julien, si tu veux qu'on recentre, tu le dis. Le personnage féminin qui part à Las Vegas avec la troupe, là, elle y était dans le bouquin ?
Le juge ?
Non,
celle
juge,
qui part avec,
la juge, elle part
avec
toute seule.
Avec Stu, Glenn, et puis... et
celle
puis,
qui meurt avec...
La mère indienne. J'ai eu des doutes aussi si elle était dans le livre.
C'est un personnage masculin qui a été féminisé, je crois.
C'est possible,
ouais. Bon, mais ça reste un personnage un peu secondaire du groupe, quoi.
Oui, complètement.
Ok. Parce que je me souvenais pas du tout d'elle.
Est-ce qu'on peut dire aussi que Glenn est aussi chiant dans la série que dans le livre ?
Il est plus chiant, j'ai
trouvé. Il était gentil, il était mignon.
Avec sa vapoteuse.
En espèce de prof avec justement sa vapoteuse à weed, là.
Voilà, la vapoteuse, ouais. Ça, c'est bien vu, ouais.
C'est Ralph Brentner dans le bouquin.
Je crois que c'est
les accompagne.
C'était une espèce de mécano, c'était le mécano qui était le mécano de confiance. Oui, d'accord. Parce que tu vois, pareil.
C'est la mécano de confiance.
Oui, voilà.
Ouais, mais on la voit que aux côtés de Mère Abigail. Elle parle quasiment pas, sauf justement quand ils partent. Je savais même plus qui c'était. Ouais. Je sais même pas si son nom est prononcé dans la série. Enfin, j'en ai
si, si, quand même Ray, ouais.
Je suis osef total de ce personnage.
Tu gardes pas parce que c'est Ray.
C'est le bodyguard.
Bah, c'est l'aide-soignante de Mère Abigail, quoi.
Est-ce que on doit parler de ce 9e épisode?
Bah, il faut.
Alors,
hein,
juste avant, moi, je voulais juste noter aussi l'apparition de Nicolas Léa, qui est Alex Krycek dans X-Files, parce que ça a été mentionné dans le chat, et je voulais mentionner quand on l'a regardé, j'ai fait oh, y a Krycek!
Il est. Je sais pas qui c'est.
Où ça? Quand?
C'est le chef des ramasseurs de cadavres.
Ah oui, putain, effectivement, j'avais pas fait le rapprochement.
Mais
oui.
Pas la ref.
Voilà, c'était juste une petite note comme ça.
Mmh. Ah oui, il a la petite moustache dégueu, là. Ouais, oui.
Alors, le 9e épisode, donc cet épisode qui se passe après l'explosion de Vegas, parce que je crois que le 9e, il commence, Stu arrive, revient avec Tom, Echo, Jack à Boulder, et très vite, il s'en va avec Franny et leur gosse. On sait pas, enfin, je sais pas où ils veulent aller, d'ailleurs.
Bah, ils veulent retourner dans le Maine.
Bah, ils veulent
retourner chez elle.
C'est Franny qui...
Ouais. De toute façon, ils s'arrêtent. Ouais. C'est dans le Nebraska, je crois, qu'ils s'arrêtent. Je sais plus dans quel état du Maine.
Oui, il me semble,
ouais. Ouais, c'est ça. Hein.
Ah, donc, dans la maison, là, ouais.
Il y a du,
voilà,
maïs.
Du maïs, Nebraska.
Des enfants du maïs, là, dans les hautes herbes.
Non, mais...
Ou, moi, au début, je pensais que cette petite fille était une tueuse.
Mais oui, complètement.
Comment ça nous est présenté
Moi, j'ai cru que Jordan Peele avait réalisé l'épisode 9 et avait introduit un personnage d'un de ses films.
Donc, moi, j'ai passé toute la séquence à me dire, si jamais c'est la réincarnation de Mère Abigail, c'est de la merde. Si c'est de la réincarnation de Mère Abigail, c'est de la merde. Si c'est la réincarnation,
c'est
ben, c'est de la merde.
Ben non, c'est pas Mère Abigail, c'est Dieu.
Ouais.
En fait, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi ils nous avaient refait une Abigail jeune. Dieu ou pas Dieu. J'ai pas compris tout ce dialogue entre Franny et l'homme en noir.
Ça apporte rien.
Non, c'est 250 pages de plus dans le bouquin. Si jamais il l'avait vraiment fait, il disait que ça faisait longtemps qu'il voulait faire cette fin-là. Stephen King.
En fait, c'est ça.
Putain, mais heureusement qu'il l'a pas fait, quoi.
Moi, je suis deg, j'ai survendu le truc, hein, en mode,
mais oui.
Ça fait 30 ans qu'il pense à cette fin-là, c'est un épilogue inédit, l'épilogue, il va être publié dans un livre sur la série, ils vont publier le scénario, c'est inédit, ça fait 30 ans qu'il y pense, c'est important. Et en fait, ça confirme juste ce qu'on dit depuis le début, il est pas bon dans les fins, même quand il les pond 30 ans après, quoi. C'est,
mais là, c'est, oui, puis surtout, c'est le moment où tu dis... Ta gueule, papy, ah. Arrête-toi, tu radotes.
C'est ça, moi, je m'attendais vraiment à une fin différente, du coup. Et c'est exactement la même fin que dans le bouquin, il a juste rajouté des scènes.
Moi, je m'attendais parce que... à la confirmation de ce qu'on a dans le bouquin à la fin et ce qu'on n'a pas du tout dans la série. En fait, la fin, ça se termine quand même sur les humains sont en train de reproduire les mêmes erreurs qu'avant. Mmh. Ils reconstruisent le même type de société avec des gens qui ne sont pas les bonnes personnes, qui essayent de prendre le pouvoir, etc. Et moi, je me suis dit, vu qu'il est quand même extrêmement pessimiste et qu'il vient de passer quelques années à passer son temps à cracher sur Trump sur Twitter, il va nous pondre un truc en mode, ben, finalement, je refais une deuxième fin du monde et cette fois-ci, personne ne survit parce que personne ne mérite de survivre, quoi. Tu vois, un truc un peu comme ça.
Ben non, j'aime ben, ton pas... optimisme.
Mais non, mais un truc qui a de l'intérêt,
non,
que t'as envie de voir. Quoi.
C'est surtout que, enfin, sauf erreur, à part la toute dernière partie avec Flag, la fin, en gros, c'est Stu et Franny et le bébé qui repartent dans le Maine parce que Franny, elle a envie de retourner de là où elle vient, et ils partent, fin. Et là, dans la série, c'est et ils partent, et t'as tout le détail du chemin pour aller là-bas. Tu vois, Emily, t'as pas eu le retour à Boulder, mais t'as le départ de Boulder.
Ouais, merde, je voulais pas ça, moi.
Et ça apporte, comme disait Grand-Paul, ça apporte tellement rien à l'histoire, à part des longueurs. Mais quelle déception. Et j'étais super hypée de me dire, oh, il fait une autre fin, ça va être génial. Non, en fait, c'est pas une autre fin, c'est juste plus détaillé.
Ouais. Bah. Ils ont enlevé des choses du livre pour mettre une fin qui était nulle.
En fait, tous les embranchements couvrent cet épisode. Aurait pu être mieux. Alors, juste, je dis bonjour au chat de temps en temps. Donc, bonjour à Slitch 6264 et à Millennium Baka qui fait un coucou Emily. Donc, nous on pue. En fait, dans cette fin, aurait pu avoir des trucs cool. On aurait pu avoir Franny et Stu meurent comme des connards parce qu'ils ont voulu vivre en dehors de la société et qu'en fait, quand tu vis seul dans une société apocalyptique, la moindre merde, la moindre septicémie peut te tuer. Hein? Parce que La meuf, quand même, a la jambe à l'équerre, quoi. Là, on a vraiment un ta gueule, c'est magique pour résoudre tout le problème.
Bah oui.
Ça aurait pu être.
La petite
ils se font tuer par.
Les bornes, hein, quand même.
Pardon ?
au passage. Petite ref à Dolores Claiborne au passage. Hein.
Oui, complètement. Ah, bah ça.
On aurait pu avoir Franny, craque et embrasse, enfin, en gros, faire un accord avec l'homme en noir, histoire de qu'il puisse revenir refaire.
Je pensais que c'est ce qui allait se passer, du coup.
Ouais. Mm. Et non.
Mais non.
Et non, elle est droite dans ses bottes. La toute dernière scène, qui est vraiment la toute dernière, les trois dernières pages du livre, où en gros, Randall Flagg, ne s'appelle plus Randall Flagg, je ne sais plus comment il s'appelle.
Un autre nom, en RF.
Ouais,
chose. Un autre RF, ouais.
Et arrive dans cette société. Je sais pas si c'est des...
Préservés.
Ouais, enfin des sortes d'Indiens, mais Indiens d'Amérique.
Ça fait Amazonie, on se croirait dans l'Amazonie.
Amazonie, je dirais, ouais.
Ouais.
Oui. Mais ça, c'est dans le bouquin déjà. Hein.
Oui, mais ils auraient pu continuer ça, tu vois, pour qu'on essaye de comprendre comment Randall revient. Mm. Mais non. Mm. Non. C'était vraiment trop nul cet épisode.
Ben, si, on sait comment il revient, il leur fait peur en faisant exploser un mec, et puis voilà.
Ça, c'était cool. Franchement, le pistolet, c'était cool.
Ouais. Attends, il est cul nu, mais il a les pieds sensibles. Il a les pieds sensibles, c'est très important. Il a gardé les Santiago, oui.
À propos de pieds de flag, au tout début de la série, comme au tout début du bouquin, alors au tout début du bouquin, quand j'ai oublié son nom, le militaire arrive à se carapater, les fameuses 40 ouais. secondes, ça s'est joué à 40 secondes près, le monde aurait survécu, ouais. et il y a eu un petit blocage de porte, il y a un des militaires qui a pu s'évader, mm-hmm. et à partir de là, du coup, la pandémie s'est répandue. Et dans la série, c'est montré où on voit un pied qui bloque la porte, donc on comprend soit de suite quand on a lu le bouquin, soit plus tard.
Non, mais là, on voit quand
on connaît pas le bouquin, que c'est Flag qui a bloqué la porte, et c'est jamais dit clairement dans le livre, et moi j'aimais bien ce doute.
Voilà, que c'était une erreur humaine, vraiment une pure erreur humaine qui faisait que
je trouve que le doute de est-ce que c'est pas Flag qui a bloqué la porte, alors je sais pas si c'est moi qui me suis posé la question ou si quelqu'un pose la question dans le bouquin à un petit moment, mais c'est pas le conducteur principal de l'histoire, mais là j'ai trouvé dommage que ce soit montré d'entrée de jeu. Voilà,
bah dans le bouquin on dit que ça aurait pas dû se passer comme ça,
oui,
qu'il aurait jamais dû s'en réchapper normalement, mais on nous explique, comme tu dis, on ne nous explique pas clairement pourquoi. Juste, il y a une anomalie, quoi.
Oui, et puis pour moi, Flag, Flag dans le bouquin, et même dans les autres bouquins qu'on a vus, c'est généralement un opportuniste. C'est pas lui qui va déclencher les événements. C'est qui va profiter des événements qui se déroulent pour élaborer ses plans, pour aller plus loin. Donc à aucun moment, je me suis dit que c'était Flag qui avait déclenché l'épidémie.
J'ai des doutes qu'il avait le pouvoir de faire ça à ce moment-là. Mais bon, là, ça devient un peu pointu.
Il y a un autre truc sur Flag aussi que j'ai pas compris, c'est son délire à l'éviter, là. Ça sert à rien.
Bon, ça...
oui, bon,
c'est
ça...
C'est impressionnant.
C'est juste montrer qu'il a des pouvoirs un peu surnaturels.
Oui.
Et montrer les moments où il reçoit la foi de ses suivants. Parce que tu vois, quand il commence à vaciller, il se casse la gueule, il n'arrive plus à l'éviter. Donc c'était une manière un peu facile de montrer... oh là là, la foi vacille.
La fin de Las Vegas, là, c'était pourri, ça aussi, non?
Oui,
les éclairs là qui partent dans tous les sens.
C'était plutôt bien fait. Après, c'était la main de Dieu pareil, mais sauf que là, c'était une main de Dieu vraiment bien matérialisée. Là, tu la voyais là.
Je trouvais que ça manquait de rythme. Ça manquait d'un rythme terrible, cette scène.
Mais parce que le personnage de la poubelle, il est un petit peu mis de côté dans toute cette série. C'est que si t'as pas lu le bouquin, tu te dis, mais ok, d'accord. Donc, il y a un gars qui va dans une base militaire qui ressort un missile. Ouais, bon, tu vois un petit con de Gégère qui commence à bouger, et genre la fois d'après tu le revois, il est dans Vegas, totalement cramé, et ça explose.
Voilà.
Et tu comprends pas, en fait, en plus, on comprend qu'il est pas censé le ramener à Vegas, mais dans le bouquin, on sait qu'il le ramène pas à Vegas parce qu'il est complètement fou de Randall Flagg, il veut à tout prix lui apporter. Là, tu perds un peu ça, tu perds un peu le côté complètement soumis à Randall Flagg et complètement adoratif, quoi.
Moi j'ai pas compris.
Ils prennent pas le temps de définir la relation entre les deux. C'est, il arrive, c'est Randall Flagg. En gros, il dit, c'est Randall qui m'a appelé, je vais chercher va chercher la bombe, reviens, et puis c'est fini, quoi.
Un peu gratos, quoi. Mm.
Par contre, le skin de la poubelle, il est cool.
Ah, il était bien sale avec.
Il colle bien.
Urde, est-ce que tu l'as autant aimé dans la série que dans le livre?
Non, parce que dans la série, je le trouve too much. Mais parce que globalement, dans le livre, c'est... Alors, il a des problèmes, ok, mais il, je sais pas, il sait s'exprimer, tu vois, il est pas... Il fait que ça dans la, ouais, dans la série, c'est un peu too much, j'ai trouvé, mais bon.
J'avais oublié qu'il faisait des cris de chat.
Ouais, mais non, c'est...
Il parle quasiment jamais, à part pour dire « My life !»
Ouais, c'est, il est vraiment... là, c'est même plus de la folie, c'est le stade d'après, quoi. Donc, j'ai trouvé que c'était trop, quoi. Donc, un peu déçu, quand même. Globalement, même si le personnage est... effectivement, les habits sont cool et tout, mais il est trop, quoi. Tu...
Je comprends même pas ce qu'il dit. De la première adaptation.
Oui, 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 carrément.
Est-ce que vous avez encore des choses à dire sur cette série ?
Émilie, tu voulais revenir sur un truc ?
Je voulais revenir sur un truc sur Randall. Après, je sais jamais si c'est moi qui pousse le truc un peu trop loin parce que j'ai lu tous les bouquins où il est là. Bon, y a quelque chose que j'aime bien et où j'ai vu des reproches dessus, c'est son style vestimentaire qui est complètement, enfin qui n'est pas très à la mode, qui est en décalage. En fait, c'est le seul qui, vestimentairement parlant, a gardé la description qu'il avait dans le bouquin qui lui se passe il y a 30 ou 40 ans. Et en fait, pour moi, ça rejoint l'interprétation qu'il y a eu de Gripsou dans les récentes adaptations de ça. En fait, vu qu'il viennent à peu près des... Enfin, ils vivent un peu dans le même univers. Gripsou, il a aussi ce truc où il comprend pas trop comment les humains se comportent, parce que c'est pas tout à fait un humain, et du coup, il est un peu fou, un peu à côté de la plaque, il a des trucs un peu chelous. Et moi, Randall Flagg, j'ai bien aimé toutes ces phases où il a un style complètement has-been, et où il est en train de regarder l'autre qui est en train d'accoucher avec son peignoir et son verre de whisky et son cigare. Ouais. Mais parce que c'est un cliché de l'être humain, parce qu'il a pas du tout les codes de l'être humain. Et du coup, moi, j'ai vu là-dedans un peu plus qu'un truc un peu grotesque, comme certains l'ont vu, vraiment une vraie interprétation de ce personnage qui n'a ni âge, ni lieu, ni univers, et qui va un peu d'un univers à un autre et qui en maîtrise pas tous les codes. Et j'avais trouvé ça cool.
Mm-hmm.
Franchement, ça m'a pas choqué, hein, qu'il soit habillé en jean et tout.
Non, c'était... Ouais.
Non, moi, je trouvais qu'il avait une bonne tête de hipster de nos jours, en jean comme ça.
Ouais, ouais, j'avoue, le jean,
pas choqué. Et rien que
entre
le
la coupe
quoi,
de cheveux, la barbe et puis la... et puis le full jean, non, je suis pas choqué.
Et son délire avec le lait, là, j'ai pas compris.
Ah oui.
Oui, hein.
Est-ce que, à part Émilie encore, vous avez quelque chose d'autre à dire ?
Non.
Allez écouter notre épisode sur le fléau. L'autre.
Ouais, nos épisodes.
Nos épisodes.
Ouais, ça fait un Lille-Perpignan à Skip. La durée. Non ? Parce qu'il y en a pour 8 heures, je crois.
Oui, si, si, en train, c'est à Lille-Perpignan. Tu as tout à fait raison, TGV.
Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ? Je profite, j'essaie de rajouter un petit coup d'œil.
Ezra Miller l'a joué comme un mauvais Gollum.
Oui, c'est vrai.
Ah, c'est un peu
c'est
ça,
vrai,
quoi.
Hein,
ouais, ouais.
Gollum,
ouais. Je suis assez. Ouais, ouais. C'est too much.
Il y a des gens. Donc, il y a Marion Pi, qui est aussi resté comme Emmerich sur Whoopi Goldberg, c'est Sister Act.
Non, comme Emily.
Ouais, mais il y a Emmerich en tout cas qui dit pareil.
Oui, oui, c'est ça. Je suis d'accord, ouais. Hein, c'est vraiment difficile de se détacher de tout ce que Whoopi Goldberg a fait, et comme elle a fait très longtemps à peu près le même personnage, quels que soient ses rôles. C'est dans Ghost, hein, c'est ça ?
Mm-hmm. Aussi, oui. Ouais.
Ah, c'est un médium dans Ghost.
Ouais, Nono Darko met un 6 sur 10.
Ah ouais, une note sur 10. Moi, je mets 7.
Je mettrais 7, 8.
Ouais.
7,
bah,
ouais.
6.
Moi je mettrais 5, c'est moyen.
Oh là là là.
Ah bah 5, c'est Rivella du coup, ouais.
Full Rivella, ouais, full Rivella, ouais, ouais. Complètement.
Non, ça va, c'était quand même un bon moment. Mais pas, franchement, j'aurais pas apprécié de la binger.
Ah, Guillaume de la Confiture qui nous dit que Whoopi Goldberg c'est aussi T-Rex. Dans Toy Story.
J'ai le premier,
ah,
mais
oui.
À 4 sur 10.
Ah, oh là là, ouais.
Tu nous as fait un classement sur l'échelle de Carrie ou pas ?
J'imagine Mirabelle.
Non, je ne l'ai pas encore fait sur l'échelle de Carrie. Parce qu'on ne l'a pas fait non plus sur l'adaptation de 90.
C'était le moment ou jamais ?
Ouais, mais on fera des hors-séries là-dessus.
On fera hors-série juste pour le...
En tout cas, j'espère que les prochaines séries qui arriveront sur King, elles seront du même acabit que celle-là. Je ne sais pas si Emily, la prochaine qui sortira, c'est le truc sur... l'overlook. Ou s'il y en a d'autres qui sont prévus avant.
Avant, on aura Histoire de Lisée, écrite par King. Donc...
C'est pas lui qui est réel, hein.
Et le roman,
non,
il est bien.
Non, c'est pas lui qui est réel.
Bah, limite, si c'est lui qui est réel, s'il nous le réalise comme il a fait Maximum Overdrive, ça peut, ça
non,
peut
mais
donner
attends.
Quelque chose. Hein.
Maximum Overdrive, il y avait de la neige, si tu vois ce que je veux dire. Là, ça devrait quand même être un peu plus clean.
Pomme, pour répondre à ta question, le roman, il est, pour moi, il est très bien, mais ça fait partie des quelques longs romans de King où j'ai mis quasiment la moitié à rentrer dedans.
Ah.
Ou pour le coup, moi, Histoire de Lisée, j'ai vraiment le souvenir, au bout de 300 pages, de me dire j'en peux plus, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et d'un chapitre à un autre, de complètement accrocher et de plus réussir à le poser, mais il a fallu que je m'accroche sur le début. Mais
c'est grand Paul qui prend les notes.
Ça vaut le coup de forcer un peu comme la Tour Sombre, tu vois, où t'as ce premier tome qui est un enfer et puis tout le reste qui suit est vraiment
le
génial.
Le rite de passage.
Sauf
ouais,
le
un peu
4,
ça avec Histoire de Lisée. Il est très cool. Après, King a dit dans une interview que le fait qu'il l'écrive avec autant de recul sur son histoire, ça lui permettait d'enlever ce qui allait pas et de rajouter des trucs à rajouter, mais on sait que King n'est pas forcément un très bon scénariste, donc on verra ce que ça donne. Il y a eu les premières images, elles sont jolies, donc c'est déjà ça. Il y a Julianne Moore dedans, donc ça c'est cool.
Ah ouais.
Ouais. On aime Julianne Moore.
Elle est trop badass, Julianne Moore.
Ouais.
Alors, Cécile 2195 ou 2195 nous demande si on va faire d'autres débats sur Stephen King.
Ah ben on en fait tous les mois.
Alors, on a
et
un
là,
épisode
on va faire deux ce mois-ci.
Qui sort tous les mois. Je t'invite à aller t'abonner, donc le roi Stephen. Par contre, des lives, en fait, c'est un peu. Au petit bonheur la chance quand il y a des actualités ou des trucs qui nous disent là on n'en a pas d'autres de prévu de mémoire
non mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qu'on essaie de faire quand il y a des nouvelles sorties cinématographiques ou séries télé qu'on a réussi à tous voir qui sont en rapport direct quoi.
Ouais, des petits hors-séries comme ça.
Et apparemment Cécile nous découvre avec cet enregistrement si
c'est
j'ai bien
ça compris. Avec ce live
c'est,
oui.
C'est trop bien.
Et parfois aussi, on fait des visions. Enfin, parfois, on l'a fait une fois. On fait des visionnages en groupe de films.
Oui.
Pour préparer les épisodes, on l'avait fait avec Christine et c'était plutôt cool.
Mm-hmm. C'était très chouette.
On ne le fera pas pour les Langoliers. Les autres vous le disent.
Non, on pourra le
faire
pour
un petit
la
peu
part
long.
Des ténèbres. Mm-hmm. Parce que c'est un Romero et que ça vaut le coup de le voir tout.
Mais peut-être que je ne le regarderai pas avec vous.
Pardon, madame.
En petit sur un écran de téléphone.
Ouais, non, pour le coup, la part des ténèbres, je suis pas sûre que tu supportes toutes les images.
Ouais, Romero, il s'est lâché.
Ouais.
Donc, du coup,
Cécile, nous, on est un podcast qui parle de Stephen King. tous les milieux du mois, on sort un épisode où on full spoil un bouquin, le bouquin qu'on a lu. Puis on parle des adaptations, on parle de la place du roman dans la vie de Stephen King. Et dans sa bibliographie.
Tu
voilà.
veux qu'on se présente aussi un par un. Enchanté.
Non.
C'est Emily.
Et par contre. Ouais. Mais non, mais elle sait pas qui on est. Parce qu'on lui dit, on fait un épisode tous les moitiés du mois. Ça se trouve, elle va se connecter à Twitch toutes les moitiés du mois pour essayer de nous trouver.
Tu as tout à fait
raison.
Non,
c'est pas sur Twitch. C'est un flux RSS.
Ouais.
Voilà. Cherche Roi Steven podcast.
Mais de toute façon, on va rappeler que. Le roi Steven est un podcast du Little Bang Podcast. Retrouvez-nous et tous les autres podcasts du label sur podcut.studio.
Exactement. Et... Abonnez-vous à la chaîne du Twitch, du coup.
Oui.
Oui.
Bah ouais.
Suivez-nous.
Pour ne rien rater.
Et donner des sous.
Et donner des sous.
Et vous pouvez nous soutenir en donnant des sous au Patreon. patreon.com/podcut.
Exactement. Mm-hmm.
Si vous donnez assez, je vais acheter un drap vert et j'aurai un fond de, je pense, de bombe atomique avec des chats ninja.
Oui.
Ah ouais. Tu veux pas mettre les éclairs là, qui
ouais, j'aimerais bien mettre ça avec des petits chats ninja copier-coller, tu sais. Ce serait
tellement
cool.
Envie de
puis
faire
hamster,
la même chose
pirate aussi.
Et de faire le boulodrome de Vegas derrière moi.
Oh, ouais, c'est bien.
Bon bah c'est cool. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Je vois que ça fait 1h14.
Moi, j'ai plein de choses à dire. Après, je sais pas si c'est forcément dans
le thème. T'as pas une anecdote sur le visionnage?
Non, mais j'avais ma famille. J'ai dit bonjour à mon papa et à ma maman. Il y a ma cousine D'accord. Fanny aussi. Je sais pas si elle est toujours connectée. Si c'est le cas, gros bisous. Merci d'être là. Voilà.
Non, je pense qu'on a fait un bon cours.
Si tu veux, je peux te trouver des anecdotes perso. Pas de problème.
Non, bah, enchaîne, on peut peut-être enchaîne, donner le planning. Vite. Du coup, il y a Christine, l'épisode sur Christine qui
Alors,
sort.
Alors là, on enregistre le 15 mars. Parce que cet épisode va sortir sur le flux du label. Sur le flux du podcast. Donc quand il va sortir.
Il sortira au début du mois d'avril.
Ouais. Donc au moment où on enregistre, il y a Christine qui sort dans 3 jours.
Oui.
Mais au moment où l'épisode va sortir, Christine est sortie il y a 15 jours.
Oui.
Allez, écoutez Christine.
Ah, oh là là.
On a invité Julie perdu, de 2 heures de perdu, qui est venue parler avec nous.
C'est ça. Et mi-avril sortira Les Langoliers.
Exactement.
Ah, le chat nous dit quoi.
Et après sortira La Part des Ténèbres, mi-mai. Et mi-juin sortira le tome 5 de La Tour Sombre.
Oh. Et après, on sait pas, peut-être.
Ouais, il y a peut-être moyen qu'on le fasse en 2 fois celui-là aussi. On verra.
On verra.
On verra dans quel état tu seras, Pomme.
Ouais.
En tout cas, je fais pas La Part des Ténèbres, c'est déjà pas mal.
Donc voilà, vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux à Roy Steven.
Oui, cherchez Roy Steven. Roy Stéphane, de quoi vous allez trouver.
Oui, avec PH.
Facebook, oui, voilà, Instagram et Twitter. Et plutôt, on est plus actif sur Instagram et Twitter que sur Facebook. Sur Facebook, on passe vraiment juste les infos de sortie d'épisodes et pas beaucoup plus.
C'est bien, Donc, tu le vends bien. Merci, Paul.
Bah, si les gens veulent vraiment des infos, rigoler avec nous et tout, c'est plutôt sur Twitter ou sur Instagram. C'est ça vrai que je veux dire.
Ouais, bah comme pour tout le monde, hein, Facebook, on connaît les soucis de... avec les publications, tout ça.
Yep. Non, bah, je crois qu'on est bon.
Bah ouais, je crois qu'on a fait le tour.
Merci beaucoup aux gens dans le chat.
Merci d'être venu,
les gens, c'est cool.
Merci tout
le monde. Et donc, Cécile, bienvenue dans la team des fans du Roy Steven.
Ouais.
Voilà.
Et à tous.
Et puis du coup, bah, on se retrouve dans 3-4 jours ou dans 15 jours dans votre flux RSS.
Exactement.
Allez, ciao.
Et eh bien, des bisous
bye.
Tout le monde.
À bientôt. Bye, bye. Bye.
Ciao, ciao.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.